Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, c'est Seb et c'est Si les 90s m'étaient comptés, le radio show 100% années 90. 19e épisode aujourd'hui et pour cette nouvelle édition, j'ai choisi de vous amener au mois de novembre 1996. Comme d'habitude, je vous ai concocté une playlist 100% rock et je suis venu aussi avec sous le bras toutes les rubriques traditionnelles, les news d'époque, les brefs de rock, les sorties d'albums, un peu de ciné et un sacré bouquin dont on parlera en fin d'émission. Mais là tout de suite, c'est l'heure d'envoyer de la musique et on commence avec les Allemands de Sun et 18, un pur tube power pop tiré de leur album Nitro, qui était encore tout chaud en novembre 96. Et juste après, messieurs dames, The President of the USA et Volcano.
Waiters, amplifiers, melted wires, the party.
l'instant, c'était The President of the USA, fameux trio de Seattle, et ses instruments bizarres, la guide basse et la basse guitare. Ils ont cartonné avec leur premier album éponyme et ses tubes Lump et Peaches, vous vous en souvenez forcément. En novembre 96, ils passaient l'épreuve tant redoutée du deuxième album et ils s'en sortaient brillamment, puisque le sobrement intitulé Tout était du même tonneau que le premier, de la pop lofi joyeusement déglinguée, et comme le plan promo était bien ficelé, ce nouvel album est sorti pile poil pour l'élection présidentielle américaine, ce qui était plutôt bien vu pour un groupe qui s'appelle The President of the USA. En novembre 96, dans un tout autre style, Johnny Cash, un des plus grands songwriters américains, venait de sortir son nouvel album intitulé Unchained, deuxième volume de la série American Recordings, un projet mêlant reprises et nouveaux titres. Et on va justement s'écouter une reprise à la sauce country folk. C'est le Rusty Catch de Soundgarden et juste après, ce sera les news d'époque.
You wired me awake and hit me with the hand of broken nail. You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil. But I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. Too cold to start a fire, I'm burning diesel, burning dinosaur bones. I'll take the river down to Stillwater and ride a pack of dogs. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. When the forest burns along the road, like God's eyes in my headlights. When the dogs are looking for their bones, and it's raining ice picks on your steel shore. I'm gonna break, I'm gonna break my, I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage.
Et bien voilà, c'est l'heure de se replonger dans l'actualité de ce mois de novembre 96. Voici vos news d'époque. Et on commence les news de novembre 1996 avec le 5 novembre, Bill Clinton qui est réélu président des États-Unis, devenant ainsi le premier démocrate depuis Franklin Roosevelt à présider les États-Unis pendant deux mandats successifs. Le 14 novembre 1996, Kool Shen et Joey Starr de NTM étaient condamnés à 6 mois de prison, dont 3 avec sursis par le tribunal correctionnel de Toulon, condamnés pour des propos outrageants envers les forces de l'ordre, et la condamnation était assortie d'une interdiction d'exercer la profession de chanteur de variété pendant 6 mois également. Le 16 novembre 1996, c'est la religieuse indienne Mère Teresa. Le 16 novembre 1996, c'est la religieuse indienne Mère Teresa qui était faite citoyenne d'honneur américaine. 19 novembre, Fidel Castro rendait visite au pape Jean-Paul II. 23 novembre, 20 ans jour pour jour après sa mort, les cendres d'André Malraux étaient transférées au Panthéon. Et pour ce mois de novembre 1996, ben, pas mal, hélas, de catastrophes aériennes, dont 3 crashs. Le 8, un Boeing 727 nigérian à Lagos. Le 12, une collision à New Delhi entre 747 saoudien et un avion kazakh. Et enfin, le 23 novembre, un avion éthiopien qui était détourné et s'abîmait en mer près des Comores. Impossible de ne pas évoquer 1996 sans parler du gros carton de l'année, le 666-667 Club de Noir Désir, sorti très précisément le 11 novembre, un disque phénomène, deux fois disque de platine en France, un disque produit par l'américaine Ted Nicely qui a bossé entre autres avec Joe Box, Girls Against Boys et Fugazi, et rien que ça c'est suffisamment rare pour être souligné. Allez, on s'écoute encore un titre, les New Yorkais de Chavez, un groupe signé chez Matador Records, un groupe complètement inclassable entre post-punk et mat-rock, formé par des ex Dead by Voice et Bullet La Volta. Pour remettre en perspective, en novembre 1996, Chavez venait de sortir son deuxième album, Ride the Fader, et c'est de ce scud qui est issu You Must Be Stop qu'on s'écoute juste après un petit clin d'œil cinématographique.
Dis donc, qu'est-ce que tu penses de Trudy? Elle a pas de mec, tu peux... Ah, tu vas rester éclaté?
Trudy, c'est celle qui a... plein de trous sur la figure.
Non, elle, c'est Jodie. C'est ma femme.
Oh,
êtes sur CFM, la radio à l'esprit rock et la kicking radio. C'est le 19e épisode de Silly 90s m'était compté. Et là, tout de suite, c'est les brèves de rock. Et on commence par un règlement de compte, puisque en ce mois de novembre 96, la grosse news du moment, c'est la mort du rappeur Tupac, dézingué par 3 balles dans le corps à Las Vegas. Fin de parcours donc pour ce roi du gangsta rap qui sera mort comme il a vécu, un tough guy pure souche. Dommage pour Censor. Et oui, en novembre 96, c'est déjà fini pour le groupe anglais, en tout cas dans sa forme originelle, puisque la moitié des membres du groupe quittaient le navire, dont le chanteur-rappeur Etam, parti former un nouveau groupe dénommé Lodestar. Rap toujours avec le Wu-Tang Clan qui sortait Who Wear, un single destiné à la promotion de sa propre marque de fringues de streetwear. Des musiciens, moi je vous dis que non. En fait, ces gars-là, c'est des businessmen avisés. Chez Primus, ça a chauffé aussi, puisque le trio venait de se séparer de son batteur Tim Alexander. Idem chez Baby Chaos, dont le batteur s'en allait également pour raison de santé. Novembre 96, c'est aussi le moment où Butthole Surfer tournait son nouveau clip, et pour les besoins de la production, ils avaient embauché comme figurant Eric Estrada, qui n'était autre que le Puncherello de la série Chips. Vous vous en souvenez sûrement de cette série, celle avec les motards de la police californienne. C'est une série qui datait des années 70, début des années 80. Grosse rumeur du côté de Seattle, où paraît-il Matt Season était en train d'enregistrer son deuxième album avec Mark Lanegan au chant. Rumeur complètement bidon, puisque ce n'est finalement qu'en 2012 que Mark Lanegan a écrit des textes et posé sa voix sur les 3 titres qui étaient en chantier du côté de Mathison à cette époque. Pour les Smashing Pumpkins, le mois de novembre 96 rimait avec énorme succès, 7 prix aux MTV Awards suite au double album Melancholy and the Infinite Sadness et à ses clips 1979 et Tonight Tonight. Des splits aussi en ce mois de novembre 96, dont celui de Alice Do Not, celui de Today Is The Day, et grosse rumeur également de split du côté de chez Prong. We'll be right back. l'instant, c'était Screeching Weasel et Bark Like a Dog. On va continuer cette grosse page de Bref de Rock avec un coup d'œil à la presse rock de ce mois de novembre 96, auquel est dédiée l'émission aujourd'hui. Et on commence avec Rage Magazine, numéro 21 en kiosque, et Marilyn Manson en couve. Manson qui cartonne à l'époque avec sa dernière sortie en date, Antichrist Superstar. Chez Roxanne, numéro 41 en kiosque, et Noël Gallagher d'Oasis en couverture. Et un sommaire qui a dû bien me plaire à l'époque, Nada Surf, Silverchair, Pearl Jam et la rencontre Metallica Corrosion of Conformity. Du côté de la presse métal, chez Hard Force, rétrospective 1996 au programme et une grosse interrogation en couverture. Sans Slash, quel avenir pour Guns N' Roses? Chez Arden Heavy, c'était le numéro 29 qui était lui en kiosque, avec Max de Sepultura en tête de gondole, et ce sous-titre, Let There Be Roots. Du côté des tops, j'ai jeté un petit coup d'œil, histoire de voir qu'est-ce que cartonnait à l'époque. Les gros vendeurs au rayon rock avaient pour nom Hills et Beautiful Freak, et c'est vrai que le premier album était absolument somptueux. On trouvait également parmi ces gros vendeurs du mois de novembre 96 Nirvana et le live From the Muddy Banks of the Wishka. Garbage cartonnait également avec leur premier album éponyme. Mes petits chouchous de Pearl Jam cartonnaient eux aussi avec No Code. Metallica, qui n'avait pas encore trop déçu avec Load, connaissait un petit peu la tête des hits. Et pour terminer, Smashing Pumpkins, c'est le double album Melancholy and the Infinitive Sadness, qui était parmi les plus grosses ventes du moment. Donc du côté des nouveautés, Johnny Cash et Unchained, Bush et Razorblade Suitcase, The President of the USA 2, le Screeching Weasel Bark Like a Dog qu'on s'est écouté juste avant, toujours au rayon punk rock mélodique, à mon avis le meilleur groupe MXPX et Life in General, les Rockets from the Crypt sortaient également The State of Art is on Fire, du ska également au rayon nouveautés avec Les Van Jake et Losing Steak. Si vous aimez un petit peu les cuivres, jetez également une oreille sur The Used et Receiving the Gift of Flower. Et pour terminer, des Français et Diabologum et leur album culte 3. 3 qui, comme son nom l'indique, était le troisième album des Toulousains de Diabologum. À son propos, les Airrock écrivaient en 1996 que c'était une bombe incendiaire dans le rock français. Et l'hebdomadaire était complètement sous le charme puisqu'il offrait même sa une à ce groupe quasi inconnu. 3, c'est un disque qui avait tout pour devenir culte. Un ovni musical hors standard, hors norme et hors format, où l'électricité pactise avec la langue française pour un résultat incendiaire et dévastateur. Ceux qui l'an dernier ont découvert et aimé Fauve feraient bien de se procurer le 3 de Diabologum, un disque précurseur qui, il y a quasiment 20 ans, commençait déjà à creuser le sillon de ce post-rock en mode spoken words dans lequel s'est épanoui avec le succès que l'on sait le collectif parisien. Et comme la demande se faisait présente, le label Ici D'ailleurs vient d'ailleurs de rééditer ce disque qui, pour Diabologum, fut le dernier de sa discographie. Une manière de partir en beauté pour le groupe toulousain. On s'écoute tout de suite. Voici Diabologum et De la neige en été. Et juste après, on va rester en France avec Sloy et Idolize.
Quand j'ai ouvert les yeux, le monde avait changé. Au milieu du mois d'août, je crois qu'il a neigé. Il n'y avait plus personne aux terrasses des cafés. Et tous les magasins étaient fermés. On aurait dit la guerre, ou bien un jour férié. Sans repas de famille et sans électricité. Il n'y avait rien à faire,
et rien n'a été fait.
Il n'y avait rien à faire,
incroyable mais vrai.
Aujourd'hui c'est misère, problème de scénario. L'hiver est de retour, 6 mois, trop tôt. On s'attendait au pire, il faut en profiter. On n'a pas tous les jours de la neige en été. Avait changé. Au milieu du mois d'août, 0 degrés, il y avait un grand feu dans la rue d'à côté. Apparemment les gens voulaient se réchauffer, penser à autre chose.
Parler un peu de tout,
parler un peu c'est bien,
et ça ne gâche rien.
Comme ça tous en caouet, comme ça en plein été. Ils ont tiré les rois, il y avait 2-3 chiens. Je les ai vus trinquer, les gens de mon quartier. Quelqu'un a même dit, il était désolé. Ils ont mangé du pain, ils ont l'air d'être abonnés. Et si ça continue, ils vont devenir fous. On s'attend donc au pire, il faut en profiter. On n'a pas tous les jours de la neige en été. On n'a pas tous les jours de la neige en été. Personne n'a rien dit. On s'est tous regardés et personne n'a rien dit. Ça ne fait plus aucun doute maintenant. Aucun doute, j'en ai bien peur. On s'est trompé de A jusqu'à Z. On s'est foutu le doigt dans l'œil et personne n'a rien dit. On voudrait bien faire marche arrière, un nouveau départ en quelque sorte, mais personne n'a rien dit. Ce qui est fait est fait, il est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Ce qui est fait, il est trop tard, et personne n'a rien dit. On a joué aux champions, on a marqué des buts entre quatre blousons, de ce coin de la ville et jusqu'à l'horizon. Il y avait des flammes, toutes les 10 maisons.
Bye.
13 novembre 1996, une date qui parle forcément aux amateurs de science-fiction, puisque c'est la date de sortie dans les salles du Los Angeles 2013 du maître John Carpenter, film dont on reparle tout de suite après un petit jingle. Et dans ce Los Angeles 2013, on retrouvait l'impeccable Kurt Russell dans le rôle principal, celui de Snake Plissken, le héros chargé de récupérer une mystérieuse boîte noire. Boîte noire capable d'annihiler toutes les sources d'énergie de la planète. Et cette boîte, elle était menacée de tomber dans les mains d'un dangereux anarchiste latino qui régnait sur Los Angeles, devenu une île suite à un tremblement de terre qui ressemblait fort au Big One. Alors ce Los Angeles 2013, c'était un petit peu un vrai faux remake du New York 1997. Il s'inscrivait comme un film d'action un petit peu à la Mad Max, avec une ambiance post-apocalyptique et une mise en scène musclée. Certes, son intrigue avait des airs de déjà-vu, mais ce film était surtout un prétexte trouvé par John Carpenter pour atomiser à la fois une ville qu'il ne portait pas dans son cœur et dénoncer les dérives qui guettaient les sociétés occidentales, puritanisme, conformisme, fascisme, flicage et fichage permanent. C'est certainement pour cette raison que le film n'a connu qu'un maigre succès au box-office américain. Cela dit, ne vous fiez pas à ça, et si l'occasion se présente, en ce moment sur la TNT, pas mal de ces films des années 90 sont rediffusés. Alors si Los Angeles 2013 se présente, donnez-lui ou redonnez-lui une chance, vous verrez. Même si visuellement le film a un peu vieilli, le message reste malheureusement bien d'actualité.
Time to pay a debt on borrowed time. Do I really hate you? hope for the color blue. Don't need no more proof that our train is due. Kill the color sublime, come on! Instructions on my head to arrest me. Oh, oh. It's an everyday test, only hope for the best. Down at the enemy tower.
À l'instant d'ainsi les 90 m'étaient comptés, c'était les Américains de The Urge, une découverte du label Immortal Records de Happy Walters, un groupe de Saint-Louis, Missouri, complètement inclassable avec des racines punk hardcore et des ramifications complexes qui lorgnaient à la fois vers le metal, le reggae et le funk. À l'époque, le boss d'Immortal cherchait à rééditer le gros coup qu'il avait fait en signant Korn en 1994. Malheureusement, le succès ne fut pas au rendez-vous, à peine 150 000 exemplaires vendus. Mais Receiving the Gift of Flower, le cinquième album de The Urge, n'en demeure pas moins un album sympathique et survitaminé, à conseiller tout particulièrement aux fans de Fishbone et des Red Hot. Pour terminer cette évocation du mois de novembre 1996, un conseil de lecture d'époque, puisque c'est en novembre 1996 que les éditions Tristam ont publié Psychotique, Réaction et autres carburateurs flingués, un recueil d'articles du critique rock américain Lester Banks, un Gonzo qui signa des centaines de chroniques pour Rolling Stone Magazine et Cream, un drug addict, alcoolique notoire, adepte de la mauvaise foi, provocateur génial, et c'est quand même un gars qui en son temps avait qualifié les Led Zeppelin de pédale et massier, qui avait dit de McCartney qu'il était un snob infernal, et qui pensait de l'album culte de Bowie, Ziggy Stardust, qu'il était un ramassis de merde. Lester Banks se considérait non sans humour comme le meilleur écrivain américain de tous les temps, devant Burroughs et Bukowski. Lester Banks est mort en 1982, à l'âge de 33 ans, des complications respiratoires liées à son mode de vie de junkie. C'était un génie de la critique rock, et si vous êtes un fan de rock, ben la lecture de Psychotique Réaction est absolument indispensable. En plus, le bouquin a été continuellement réédité depuis 1996, vous trouverez donc ça sans problème. Retour de la musique tout de suite dans Si les 90s m'étaient comptés, je vous ai dégoté une petite pépite dénommée Candy Prune, un trio rennais qui en novembre 1996 venait de sortir son premier disque sobrement intitulé EP. Un mini-album donc, 6 titres très très pixiens, dont l'excellent Stop 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 qui arrive tout de suite.
sentiments étranges. Cette habitude ainsi me dérange.
Voilà, si les 90s m'étaient comptés, c'est fini pour aujourd'hui. On a fait escale en novembre 1996 et j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve dans 2 semaines, même heure, même endroit, pour un hors-série spécial rock français durant les 90s. Vous avez été nombreux à me demander du local, vous allez donc être servis. Grosse bise, bonne soirée à tous. Le générique de fin de ce soir, c'est MXPX et Move to Bremerton. Bye bye!
A special guest.